Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 21 septembre, on se retrouve pour revivre 7 jours d'événements grâce au reportage de la rédaction. Vous pouvez aussi écouter cette émission sur votre moteur de recherche préféré, sur le site de la radio, sur l'application RFI 100% Radio et à la page Une semaine d'actu de Facebook. C'est en compagnie de Yann Mince, journaliste au magazine Alternatives Économiques, spécialiste des questions internationales, que nous allons parcourir les points chauds du globe. Nous partirons pour l'Iran, Israël, l'Afghanistan, la Tunisie notamment. Mais tout de suite, rendons-nous en Afrique du Sud. Face au degré de violence faites aux femmes, le président Cyril Ramaphosa a déclaré l'état d'urgence. À Johannesburg jeudi, Noé Oché-Boda.
Trop, c'est trop, Cyril Ramaphosa l'a dit et répété. Les femmes sont en état de siège en Afrique du Sud. Le président ne pèse pas ses mots.
Il y a une guerre très brutale qui est en cours contre les femmes de ce pays. L'Afrique du Sud est l'un des endroits les plus dangereux au monde pour les femmes.
Il est déjà trop tard pour parler. Le président assure qu'il veut rapidement agir en renforçant le système judiciaire sud-africain, trop laxiste à son goût.
Les violeurs et meurtriers doivent savoir qu'ils seront arrêtés et qu'ils devront assumer les conséquences de leurs actes. Tous les crimes contre les femmes et les enfants doivent s'accompagner de peines minimum plus strictes.
La réponse est aussi financière. Ramaphosa appelle le secteur privé à donner des garanties. Le gouvernement fera de même.
Tous les secteurs de notre société doivent se mobiliser autour de ce défi. Ce matin, le gouvernement a décidé d'allouer encore 70 millions d'euros pour mettre en œuvre des réponses efficaces aux violences faites aux femmes.
Le président clôture son discours en indiquant que l'an dernier, 2700 femmes sud-africaines sont tombées sous les coups de leurs conjoints.
Bonjour, un spécialiste des questions internationales au magazine Alternatives Économiques, notre ami Yann Mince, un fidèle de l'émission. Alors, vous êtes attendu, comme à chaque fois, deux auditeurs parmi beaucoup d'autres nous ont écrit, apprenant que vous veniez ce samedi. Heureux d'apprendre que Yann Mince vient à nouveau éclairer ma lanterne sur l'évolution de notre planète, écrit Pirone, qui vit à Boaké, en Côte d'Ivoire, ou alors Mohamed Lamine, qui lui vit à Conakry, nous écrit, Dixit, il a une lecture, en parlant de vous, assez limpide sur les questions internationales. Bien, dites-moi.
Je suis extrêmement honoré, j'ai une grande responsabilité qui pèse sur mes épaules. En tout cas, je salue et remercie très chaleureusement ces deux auditeurs fidèles.
Alors nous allons commencer malheureusement avec un sujet tragique, cette violence faite aux femmes un peu partout dans le monde. Là, il s'agissait en l'occurrence de l'Afrique du Sud.
Oui, comme l'a dit le président Ramaphosa dans l'enregistrement, c'est un des pays les plus dangereux effectivement pour les femmes. Alors, mon interrogation, c'est qu'on a coutume souvent de dire que c'est un héritage du régime d'apartheid. Alors, le régime d'apartheid a probablement une lourde responsabilité. Je suis toujours un peu dubitatif sur cette explication, comme en tout cas une explication centrale. Je me demande si l'image de la femme, le statut de la femme est vraiment beaucoup plus enviable, par exemple dans les communautés traditionnelles, Xhosa, Zoulou, etc. Et d'ailleurs, le prédécesseur de Cyril Ramaphosa, Jacob Zuma, avait lui-même un certain nombre d'affaires au Basque assez peu ragoûtantes de ce point de vue, d'affaires où il avait traité des femmes de façon extrêmement détestable. Je crois qu'il est urgent que le régime sud-africain réagisse, et j'y vois aussi un effet retard un peu de ce mouvement MeToo, de ces hashtags, et donc un effet bénéfique des réseaux sociaux. On les critique souvent, là en l'occurrence c'est plutôt un point positif.
Alors qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, Yann Mince, dans cette actualité que vous suivez au jour le jour, je dirais pas même heure par heure?
Ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'on est aujourd'hui en fin de semaine, et que j'ai l'impression que ce qui était l'actualité le début de la semaine, c'est-à-dire ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, dont on parlera je pense, de l'Iran, etc., tout ça, je dis pas est retombé complètement, mais en tout cas, une fois que le niveau du baril, le prix du baril est retombé un peu, du coup, ce qui se passe dans le Golfe n'intéresse plus forcément grand monde, ça prouve à mon sens, d'une part, que nous ne nous intéressons pas au Golfe, à l'Iran, à l'Arabie Saoudite, pour eux-mêmes, mais pour nous. Quand je dis nous, c'est en Occident, mais pas seulement en Occident, parce que l'Arabie Saoudite vend d'abord à des pays asiatiques, la Chine, le Japon, la Corée, etc. Donc c'est eux qui sont les plus concernés. Et que quand ça ne touche pas directement, disons, la communauté internationale, en tout cas la partie la plus développée, eh ben ça n'intéresse pas grand monde.
Et c'est pour cela aussi qu'une semaine d'actualité existe, parce que nous avons tous plus ou moins la mémoire courte.
Oui, nous avons tous la mémoire courte. On peut oublier en fin de semaine ce qui s'est passé encore il y a très peu de temps, et je crois qu'on... Alors, sauf à ce qu'il y ait un dérapage, qui est évidemment encore possible, on va peut-être passer cette attaque en Arabie Saoudite aux choses, au rang mineur, disons.
Alors, partons justement pour l'Arabie Saoudite, Yann, après l'attaque il y a une semaine juste d'installations pétrolières stratégiques pour le royaume saoudien. Attaque revendiquée par les combattants houthis du Yémen, mais les regards se sont tout de suite tournés vers l'Iran, qui dément à Téhéran dimanche. Tiavash Ghazi.
Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a répliqué dans un tweet à son homologue américain, Mike Pompeo, qui a échoué dans sa politique de pression maximale contre l'Iran, a recours maintenant au mensonge maximal, a écrit Mohammad Javad Zarif. Il a ajouté qu'accuser l'Iran ne mettra pas fin à la tragédie du Yémen et que la seule solution est de cesser les attaques contre ce pays et commencer des négociations inter-yéménites. L'Iran soutient les rebelles houthis et dénonce les attaques quotidiennes de l'Arabie Saoudite et de ses alliés contre le Yémen. Téhéran demande également aux pays occidentaux de cesser de livrer des armes à Riyad. Après ces attaques contre les installations pétrolières de l'Arabie Saoudite, la tension a de nouveau monté dans la région entre l'Iran et les États-Unis. Ainsi, le général Amir Ali Hajizadeh, commandant de la force aérospatiale des gardiens de la Révolution, n'a pas rejeté la possibilité d'une guerre entre l'Iran et les États-Unis. Ni Téhéran ni Washington ne veulent la guerre, mais une confrontation involontaire pourra aboutir à un conflit ouvert entre les deux pays, a déclaré le général Hajizadeh. Il a ajouté que toutes les bases et tous les navires américains dans un rayon de 2000 km dans la région sont sous le contrôle des forces armées iraniennes et seront attaquées en cas de conflit ouvert entre les deux pays.
Après une enquête rapide de quelques jours, donc, l'Arabie Saoudite a confirmé ce qu'elle estime être une attaque iranienne. Sami Boukhalifa.
L'enquête saoudienne aura duré moins de 4 jours. Ce mercredi, le porte-parole du ministère saoudien de la Défense convoque une conférence de presse. Tout est préparé minutieusement. Turki al-Maliki s'exprime alors au milieu de débris de drones et de missiles. Ces restes récupérés sur les théâtres des frappes qui ont visé les deux installations pétrolières saoudiennes samedi sont présentés comme des preuves irréfutables de l'implication de l'Iran. Même si les radars saoudiens n'ont rien détecté le jour de l'attaque, Riyad semble désormais catégorique. Drones et missiles ennemis sont entrés dans son espace aérien par le nord. À travers cette déclaration, le royaume saoudien dément ainsi la version des Houthis. Ces rebelles chiites yéménites proches de l'Iran qui ont revendiqué l'attaque cherchaient vraisemblablement à faire diversion, selon Riyad. Les Saoudiens souhaitent désormais porter l'affaire au Conseil de sécurité des Nations Unies. Des experts de l'ONU vont mener leur propre enquête sur le terrain en Arabie Saoudite.
Alors sur la position américaine, sur la position de Donald Trump face à cette crise, écoutez ce que disait jeudi sur RFI Robert Mallet, ancien conseiller de Barack Obama, président de l'organisation International Crisis Group. Il a répondu aux questions d'Anne Corpé à Washington.
Il y a deux lignes dans la tête du président Trump. C'est-à-dire que d'un côté, son instinct, c'est de ne pas faire la guerre. Son instinct, c'est justement de dire on va s'occuper de nos affaires et non pas des affaires externes. Mais de l'autre côté, il aime pouvoir projeter cette image d'homme fort qui ne se laisse pas faire et qui réagit lorsqu'on l'attaque. Lui-même tergiverse entre ces deux. Et donc on voit que d'un côté, il dit on va réagir, et de l'autre côté, ce qu'il annonce aujourd'hui, c'est des sanctions contre l'Iran, contre lesquelles les États-Unis ont déjà déclaré la pression maximale. Il est coincé non seulement parce qu'il hésite, mais parce que la politique qu'il mène est une politique qui va inévitablement causer des tensions de ce type. C'est-à-dire qu'en mettant la pression maximale sur l'Iran, en réimposant les sanctions, le président Trump s'est mis sur la voie d'une escalade quasiment inévitable avec l'Iran qui pourra mener à la guerre dont Trump ne veut pas. Donc la contradiction de Trump, elle est double. D'un côté, il est déchiré entre est-ce qu'il veut être l'homme qui va pouvoir répliquer fortement aux provocations, mais d'un autre côté, il ne veut pas la guerre. Et d'un autre côté, c'est quelqu'un qui préfère ne pas faire la guerre, mais dont la politique y mène. Et ces contradictions sont au cœur de l'administration Trump et du personnage Trump depuis qu'il a pris ses fonctions.
En tout cas, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, en tournée dans le Golfe, a assuré jeudi à Abu Dhabi que les États-Unis privilégiaient une solution pacifique avec l'Iran. La situation est évidemment à suivre dans nos journaux. Quel regard portez-vous sur cette crise? D'abord sur ce bombardement, sur cette action très spectaculaire.
Oui, très spectaculaire. Alors, l'idée que ce soit les outils a soulevé des doutes tout de suite parce que c'est assez loin du territoire yéménite quand même, les installations en question, et donc on n'était pas absolument certain que les outils avaient des armes qui permettaient de tirer jusque-là avec cette précision-là. Par ailleurs, il semble qu'il y ait à la fois des drones et des missiles de croisière, je crois, qui sont impliqués. Donc effectivement, assez rapidement, les Américains ont dit ça peut pas venir de, et les Saoudiens ont enchéri, ça peut pas venir de là, ça vient probablement du nord, et ça vient, on dit les Américains, du sud de l'Irak ou du territoire iranien contigu du sud de l'Irak. Ça permet éventuellement aux Iraniens de dire c'est pas chez moi, c'est juste à côté de chez moi, mais c'est pas chez moi. Sachant qu'évidemment en Iran, en Irak, les Iraniens contrôlent ou soutiennent des milices qui peuvent effectivement agir sous leur ordre, disons. Ensuite, sur le plan saoudien, je pense que l'Arabie saoudite est très embêtée. L'Arabie saoudite a déjà un conflit en cours au Yémen, dans lequel elle est enlisée. Je crois pas du tout qu'elle ait envie d'un conflit avec un pays aussi puissant que l'Iran, même si elle était appuyée par les États-Unis et du côté des Américains. Je crois que l'obsession de Trump, c'est de gagner un nouveau mandat. Et pour gagner un nouveau mandat, il faut pas contrarier sa base. Et sa base électorale, je crois qu'elle ne veut pas de la guerre.
Parce que finalement, Yann Mince, Donald Trump, beaucoup critiqué, souvent à juste raison, n'est pas un va-t-en-guerre.
C'est un va en tweet. Il va facilement en tweet, ça oui. Mais pour ce qui est de la guerre, il est beaucoup plus prudent pour la raison que j'ai dite. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'après les expéditions irakiennes et afghanes, qui ont duré très longtemps, qui ont coûté très cher en hommes, bien sûr, et en argent, évidemment, l'opinion publique américaine, et notamment l'opinion publique américaine la plus populaire, celle que lui vise pour sa réélection, celle-là veut pas de guerre. Elle veut pas que des boys, des cadavres de soldats, de vétérans reviennent, ou qu'il y ait beaucoup de vétérans, handicapés aux États-Unis. Elle veut pas payer des tas d'impôts pour des guerres lointaines, pour des intérêts dont elle voit pas très bien ce qu'ils ont à faire avec ceux des États-Unis, et d'autant moins aujourd'hui que les États-Unis sont redevenus le premier producteur mondial de pétrole, grâce au pétrole de schiste, pas le premier exportateur, ça c'est toujours l'Arabie Saoudite, mais le premier producteur. Donc, ils importent encore du pétrole, mais probablement ils vont devenir exportateurs nets d'ici quelques années, peut-être même en 2020. Ce qui veut dire que les affaires du Golfe vont intéresser moins directement les électeurs américains, je dis pas les autorités américaines, qui elles sont plus soucieuses de géopolitique, de puissance, etc. Mais ça va être plus en plus difficile de convaincre l'électeur américain que les affaires de barils de ces régions lointaines qu'il ne connaît pas le concernent et que ça vaut le coup de tuer des soldats américains ou d'envoyer des montagnes de dollars pour s'en occuper.
Sept jours dans le monde.
Yann, prenons la route maintenant d'Israël après les élections législatives de mardi dernier. Des tractations serrées sont prévisibles car Benjamin Netanyahou n'est pas parvenu à obtenir une majorité à Jérusalem. Guilhem Deltaï, mercredi.
Affaibli par son échec à obtenir une majorité de droite, Benjamin Netanyahou s'est attaché ce mercredi à montrer le poids politique et l'autorité dont il jouit encore. La séquence s'est déroulée en deux temps. Une rencontre avec les chefs des formations politiques religieuses et nationales religieuses, puis une réunion des députés de son parti, le Likoud. Les formations de droite se sont engagées à rester unies. Elles ont même désigné une équipe commune de négociation en vue de la formation d'un gouvernement. Benjamin Netanyahou veut ainsi montrer que son camp politique reste uni derrière lui et n'envisage pas de le remplacer. Et avec le soutien de 55 députés, il espère également arriver en position de force face au président pour l'empêcher de donner à Benny Gantz le mandat de former le prochain gouvernement. Mais la manœuvre comprend un risque également. Cette coalition est précisément celle rejetée par les autres partis politiques, soit en raison de son positionnement idéologique, trop à droite ou trop religieux pour certains, soit à cause des accusations de corruption pesant contre le Premier ministre sortant. En s'engageant dans les discussions avec les autres formations de droite, Benjamin Netanyahou limite aussi sa capacité à attirer d'autres députés dans son camp.
Vous écoutez RFI et singulièrement une semaine d'actualité. Nous sommes cette semaine, ce samedi, en compagnie de Yann Mince, notre ami journaliste au magazine Alternatives Économiques, spécialiste des questions internationales. Et nous résumons, comme chaque semaine à cette heure-ci, l'actualité l'actualité de ces derniers jours, encore des élections très serrées en Israël.
Oui, je pense qu'un jour, il faudra peut-être que les Israéliens, les électeurs israéliens, les citoyens israéliens, pensent à modifier le mode de scrutin qui est le leur. Alors, c'est un mode de scrutin qui, en fait, est hérité des congrès sionistes, c'est-à-dire des congrès qui existaient avant même l'existence d'Israël, qui réunissaient toutes les communautés de la diaspora, et donc il fallait donner à chacun une part strictement proportionnelle au nombre de sa communauté. Et donc, le scrutin israélien, c'est un scrutin à la proportionnelle, national, donc avec un taux très bas pour être élu, ce qui veut dire qu'il y a un éclatement, il y a beaucoup de partis politiques. Ça donne ça, ça donne deux partis qui ont 30 députés chacun à peu près, la Knesset fait 120 députés, et ensuite tout un tas de formations qui ont chacune leur spécificité. Et donc il faut forcément, quand on a quand on est un parti, même un grand parti, par exemple Netanyahou ou Gantz, ils ont 30 voix chacun, mais il faut qu'ils en trouvent 31 dans d'autres partis pour pouvoir gouverner. Et donc ça, c'est extrêmement compliqué, parce que ça s'est doublé d'un clivage de plus en plus fort ces dernières années, entre en gros les sécularistes, j'aime pas beaucoup le terme laïque, enfin disons les sécularistes,
et
ceux qui sont plus pro-religieux, voilà. Avec ce nœud gordien qui est de fait de savoir si les étudiants religieux doivent ou pas faire leur service militaire comme tous les citoyens israéliens. Il y a des exemptions, c'est quelque chose qui fait râler de plus en plus de citoyens israéliens, mais avec une société qui est aussi de plus en plus clivée, parce que les religieux ont plus d'enfants en moyenne que les non-religieux, et donc ça veut dire que leur poids numérique est en train de grossir dans la société, d'où cet imbroglio qui pourrait bien se terminer, il y a un procès dans l'histoire israélienne, par un gouvernement d'union nationale.
Alors c'est ce qu'a proposé Benjamin Netanyahou jeudi, qui a proposé un gouvernement de coalition avec Benny Gantz.
Sauf que Netanyahou veut que ce soit lui qui dirige le gouvernement en question, et que les autres évidemment ne veulent pas, Benny Gantz ne veut pas. Il est possible que si jamais l'un et l'autre n'arrive pas à former une majorité, séparément, le président Rivlin, le président israélien, chef de l'État en l'occurrence, leur disent « bon, maintenant il faudrait vous entendre ». Avec cette possibilité qui a déjà lieu une fois, d'une rotation. C'est-à-dire chacun a la moitié du mandat comme Premier ministre.
Difficile de gouverner quand même dans ces conditions.
Ça s'est déjà vu dans les années 90 avec Shamir et Rabin, si je me souviens bien. La question, ce sera « d'accord, mais qui commence ?» Est-ce que c'est Netanyahou ou Gantz, sachant que Netanyahou est attendu par la justice, qu'il a un certain nombre d'affaires.
C'est peut-être ça qui fera la différence.
Et qu'il a absolument pas envie de se retrouver comme un citoyen ordinaire.
Ouais. Il nous faut nous arrêter maintenant, Yann, en Afghanistan, quelques jours d'élections importantes. Je sais que vous suivez aussi la situation dans ce pays avec attention. Au moins 48 personnes ont été tuées rien que mardi lors de deux attentats suicides, l'un contre un meeting électoral du président Ashraf Ghani et l'autre à Kaboul. Tous deux revendiqués par les talibans qui considèrent le scrutin présidentiel prévu, je rappelle, le 28 septembre prochain comme illégitime à Kaboul. Sonia Ghezali.
Et l'explosion d'un kamikaze, semble-t-il, a eu lieu à l'extérieur du centre d'entraînement de la police de Parwan, une province du nord-est de l'Afghanistan. C'est là que se tenait un meeting de campagne du président Ashraf Ghani, candidat à sa propre succession. Personne n'a été blessé parmi les participants, selon le ministère de l'Intérieur. Des témoins racontent même que le meeting s'est poursuivi après l'explosion, alors qu'un épais nuage de fumée s'élevait dans le ciel à quelques mètres de là. Les victimes sont toutes des civils, selon des sources sécuritaires. Peu après cette explosion, il y a eu une autre explosion à Kaboul, cette fois-ci en plein cœur de la capitale afghane, à l'entrée de la zone diplomatique, près de l'une des entrées du ministère de la Défense. Un kamikaze s'est fait exploser au rond-point Massoud, un carrefour très fréquenté. Le scrutin présidentiel doit se tenir dans 11 jours et les craintes sécuritaires se confirment. Les talibans ont revendiqué les deux attaques du jour et disent avoir ciblé les forces gouvernementales. Ils ont prévenu la population qu'ils s'attaqueraient au processus électoral, la mettant en garde de ne pas aller voter au risque d'y perdre la vie.
La Syrie maintenant, Yann Mince, où la guerre, rappelons-le, n'est pas finie. Loin de là, les bombardements syriens sur Idlib continuent. De Beyrouth, Paul Khalifa fait un point mardi.
Des obus et des roquettes tirées par l'armée syrienne se sont abattus non loin d'un poste d'observation de l'armée turque près de la ville de Ma'arat al-Nu'man tenue par les djihadistes. La position turque n'a pas été touchée, mais c'est la troisième fois en moins de 48 heures que cette région est prise pour cible par les troupes gouvernementales qui ont suspendu leur offensive dans la province d'Idlib le 31 août. Cependant, la trêve négociée avec la Turquie par la Russie est quotidiennement violée depuis le 13 septembre. Après un arrêt de deux semaines, l'artillerie syrienne a repris son pilonnage des zones encore tenues par les djihadistes et les rebelles pro-turcs. L'aviation, en revanche, entre rarement en action. Lundi, des obus et des roquettes se sont abattus sur une dizaine de localités, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La reprise des duels d'artillerie prouve que les négociations entre la Russie et la Turquie sur le sort des djihadistes de l'ex-branche d'Al-Qaïda piétinent. Moscou exige leur désarmement et le démantèlement de leur groupe. Mais la Turquie n'est pas disposée à accomplir cette mission et ses alliés syriens n'en ont pas les moyens. Dans ce contexte, une reprise des combats à grande échelle n'est pas exclue après l'offensive de l'armée syrienne qui a fait 4150 morts, dont plus d'un millier de civils depuis le 30 avril.
J'ajoute que la Russie et la Chine ont mis jeudi leur veto à une résolution de l'Allemagne et de la Belgique et du Koweït aussi, qui imposait un cessez-le-feu à Idlib en Syrie. Commençons par l'Afghanistan, Yann. Il y aura des élections importantes le 28 septembre prochain, mais les talibans sont considérés déjà comme les vainqueurs.
Oui, enfin, les talibans ont une capacité de nuisance qui fait que, quel que soit le résultat du scrutin, de toute façon, comme d'ailleurs c'est actuellement le cas aujourd'hui, le futur pouvoir ne contrôlera qu'une partie du pays. Alors, je dis pas une partie minoritaire parce que il y a des débats à n'en plus finir entre experts sur quel est le pourcentage du territoire que les talibans contrôlent ou en tout cas où ils empêchent le gouvernement d'avoir un contrôle réel. Mais c'est sûr, on l'a bien vu quand il y a eu cet échec un peu étrange de négociations entre les États-Unis et les talibans, oui, avec Donald Trump disant qu'il avait annulé au dernier moment un rendez-vous qu'il avait avec un chef des talibans. Le grand absent de cette histoire, c'était le gouvernement afghan, qui est dorénavant le grand rival des talibans. Ce ne sont plus tellement les États-Unis. Je pense que les talibans savent que les États-Unis ont envie de se retirer d'une façon ou d'une autre. Ce que les talibans sont prêts à concéder en échange est loin d'être clair. Ce que les Américains voudraient, c'est qu'ils les aident en fait à se débarrasser d'Al-Qaïda, mais c'est pas du tout sûr que les talibans y soient prêts. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que les talibans n'ont vraiment pas envie de traiter avec le gouvernement afghan, parce que ce qu'ils veulent, c'est remettre la main sur le pays, clairement. Et donc, du coup, effectivement, dans ces négociations, le gouvernement afghan était exclu, et on voit bien la suite logique de cette histoire, c'est que les élections, qui sont donc là pour légitimer le gouvernement afghan, elles sont combattues par les talibans.
La Syrie, les combats continuent donc à Idlib, et le gouvernement syrien, plus que jamais, décidé à reconquérir une... Oui, mais l'intégralité de son territoire, ou presque.
La difficulté de la reconquête du gouvernement syrien, c'est que jusque-là, le gouvernement syrien, quand il a reconquis une zone, en gros, on a chassé les djihadistes qui ont été évacués vers où ? Vers Idlib, précisément. Donc, tous les djihadistes de Syrie, à peu près, sauf l'État islamique, mais je pense à les gens d'Al-Qaïda et associés, ou ex-Al-Qaïda, sont aujourd'hui regroupés à Idlib. Donc, si on prend Idlib, il faut prendre les djihadistes. C'est pas facile c'est un cadeau difficile. Ou alors il faut hacher menu tous ces gens, massacrer les djihadistes, donc massacrer une bonne partie de la population. Si effectivement il y a demain une offensive beaucoup plus importante que ce qu'il y a aujourd'hui, les duels d'artillerie dont il était question dans le reportage, s'il y a une offensive plus importante, la grande peur d'Erdogan cette fois, c'est que des centaines de milliers de réfugiés nouveaux arrivent en Turquie.
Erdogan qui veut au contraire conforter une zone dite de sécurité en Syrie pour justement pour faire ne pas en sorte avoir que ces réfugiés syriens sur son territoire partent, quittent
pour ne pays. Pas avoir à accueillir ni les réfugiés ni éventuellement les djihadistes, parce qu'il a vraiment, lui non plus n'a pas envie, même s'il a des relations très ambiguës avec Ayatollah al-Sham, qui est l'ex-branche d'Al-Qaïda, qui est en gros le grand mouvement djihadiste qui contrôle Idlib. Il a des relations étranges avec ces gens, mais il n'a pas envie de les avoir à la maison pour autant.
Alors on notera que le sommet d'Ankara qui réunissait, il faut le rappeler, la Turquie, la Russie et l'Iran n'a débouché sur rien.
Non, parce que leurs intérêts sont actuellement trop contradictoires pour qu'ils puissent obtenir quelque chose. Et puis, surtout, c'est toujours pareil. Ces trois-là discutent, mais ensuite, quelle est la capacité des Russes et des Iraniens à imposer, la volonté et la capacité à imposer aux Syriens, à Bachar el-Assad, leur solution. Bachar el-Assad a une grande, grande capacité de résistance face à ses présumés parrains.
Une semaine d'actualité.
Et de l'actualité française maintenant, nous allons parler. Emmanuel Macron s'est invité lundi au pot de rentrée en quelque sorte des députés et des sénateurs de La République En Marche et de ses partis alliés. Le chef de l'État a fait passer plusieurs messages. Il a d'abord appelé ses ministres et sa majorité à n'avoir ni arrogance ni excès de prudence qui conduirait, dit-il, à l'immobilisme. Et les a mis en garde contre la division à 15 jours d'un débat sur l'immigration. À l'Assemblée, Emmanuel Macron a d'autre part affiché sa fermeté sur la politique migratoire pour éviter d'être, dit-il, un parti bourgeois qui ignore l'opinion des classes populaires, séduite par l'extrême droite, Julien Chavannes.
Nous n'avons pas le droit de ne pas regarder l'immigration en face. Dans son discours, Emmanuel Macron en fait l'une de ses priorités. Le chef de l'État est prêt à réformer le droit d'asile car, dit-il, le système est détourné par des réseaux avec à la clé de plus en plus de mineurs isolés. Les modalités de l'aide médicale d'État pourraient aussi être revues. Aurore Berger est députée La République En Marche.
Ce qu'il nous a demandé de manière très claire ce soir, d'affronter les sujets, de les regarder en face sans aucune naïveté, tout en continuant de les regarder avec humanisme. C'est cette ligne de crête qui n'est pas toujours facile à tenir, mais qui est essentielle si on ne veut pas en effet s'embourgeoiser, c'est-à-dire ne plus être au contact des Français.
L'autre objectif de cette offensive sur le terrain sensible de l'immigration, c'est de tenter d'affaiblir le Rassemblement national. Pour Emmanuel Macron, le parti de Marine Le Pen est d'ailleurs le seul opposant d'En Marche. Explication du sénateur François Patriat.
L'opposition qui porte dans l'opinion, c'est celle du Rassemblement national, qui est celle du repli sur soi, alors que nous devons être plutôt ambitieux.
Ce débat sur l'immigration ne fait pas l'unanimité chez les députés marcheurs, notamment pour l'aile gauche de la Macronie. Ça fait plus que tousser en interne, confie l'un d'entre eux. Courir après l'extrême droite, ça ne marche plus. On a parlé écologie aux européennes et c'est Europe Écologie Les Verts qui a pris les points, analyse ce député En Marche.
Est-ce que ces propos suscitent chez vous un commentaire, Yann, ces propos sur l'immigration du président de la République?
Ce qui m'inquiète, c'est que le président Macron parle des effets de l'immigration. Je ne sais plus comment quelle est la formule qu'il a employée, mais de quoi est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il parle des problèmes que peuvent causer dans certains quartiers, certains jeunes issus de l'immigration? Soyons clairs, ces jeunes-là ne sont pas des immigrés. Ce sont des jeunes gens de familles immigrées qui sont nés en France. Donc ce ne sont pas, ça n'a jamais été des immigrés, puisqu'ils sont nés sur le sol national. En France, on applique le droit du sol. Est-ce que c'est à ça qu'il fait référence ou est-ce qu'il fait référence à autre chose? Est-ce qu'il fait référence aux immigrés de première génération? À ma connaissance, il n'y a pas de problème majeur avec les immigrés de première génération. Donc ce terme immigration, il est extrêmement ambigu. Il mélange le droit d'asile comme si les demandeurs d'asile posaient des problèmes en France. Je ne dis pas que soit facile d'accueillir les demandeurs d'asile, ça demande des structures spéciales, ça demande de l'argent, indubitablement, mais pas non plus des sommes folles. Il ne faut pas exagérer. Et l'idée de supprimer ou de diminuer l'aide médicale d'État, je trouve ça stupide et dangereux, ne serait-ce que pour une raison, si on ne soigne pas quelqu'un qui a une pathologie bénigne, elle peut éventuellement devenir une pathologie plus grave, et ça coûtera éventuellement plus cher le soigner ensuite, parce qu'il ne repartira pas pour ça. L'un des fondements de la doctrine d'Emmanuel Macron, c'est de rendre la France aussi peu attractive que possible pour les migrants, pour qu'ils ne viennent pas. Ça ne marchera pas.
Et il y a aussi une redéfinition peut-être de la liste des pays dont on considère que les ressortissants sont en danger. Il semblerait que les Géorgiens et les Albanais soient en tête de la liste des réfugiés qui viennent en France. Or, la Géorgie et l'Albanie ne sont pas spécialement des pays de...
Mais qu'on dise à un demandeur d'asile... vous ne correspondez pas aux critères, c'est le travail de l'OFPRA. Mmh. J'ai travaillé quelques mois à l'OFPRA il y a très très longtemps, je sais ce que ça veut dire, c'est normal. Le droit d'asile, c'est pour les gens qui répondent aux critères de la Convention de Genève. Qu'on dise à des gens, vous ne correspondez pas au droit d'asile, c'est normal. Si un Suisse vient demain présenter une demande d'asile, on va lui dire que non. Au moment de 2015, quand tous ces Syriens sont passés, et les Irakiens et les Afghans sont passés par la Turquie vers la Grèce et sont remontés en Allemagne parce que Angela Merkel a suspendu les accords de Dublin, il y a eu aussi beaucoup d'Albanais qui sont venus en Allemagne. L'Allemagne a dit non, vous ne venez pas d'un pays en guerre, vous n'êtes pas menacé. C'est logique. En revanche, quand le président Macron parle de détournement de l'asile, pourquoi est-ce que des gens essayent de venir en France en utilisant le droit d'asile alors qu'il n'y aurait pas droit? Parce que l'immigration économique est très fermée en France. Et l'immigration économique est très fermée alors que nous avons des centaines de milliers de travailleurs clandestins en France. Pourquoi ne pas intégrer ces clandestins?
Alors parlons du climat. Yann a commencé la semaine internationale pour le climat et il y a eu hier une grève pour le climat dans le monde entier, y compris en France évidemment. Et il y a une décision de justice qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers jours en France. C'est la décision d'un juge du tribunal correctionnel de Lyon qui jugeait deux militants qui avaient décroché un portrait du président Macron dans une des mairies de Lyon, celle du 2e arrondissement spécifiquement, et qui a jugé qu'il ne fallait pas condamner ces deux jeunes parce que leur action, dit-il, doit être interprétée comme le substitut nécessaire du dialogue impraticable entre le président de la République et le peuple. Fin de citation. C'est rare d'entendre, de voir un juge prendre ce genre de décision.
Alors, je ne suis pas assez connaisseur de la jurisprudence sur ces sujets-là, mais je soupçonne que si appel il y a, ce jugement sera cassé, parce que c'est clairement un libellé extrêmement partisan. Et je ne pense pas que ce soit un magistrat de faire ce genre de considération dans les attendus de son jugement. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment juger, condamner quelqu'un parce qu'il a décroché un portrait? Alors je sais que le portrait président de la République est presque sacré en France, que il faut pas toucher même à la photo de notre monarque. Enfin, faut pas exagérer quand même.
Il s'agit de militants qui prônent la désobéissance civile pour lutter contre le climat, pour être précis.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, merci pour vos messages. Continuez évidemment à nous écrire. Un bonjour aujourd'hui à Pierron, à Boaké, à Arthur, à Yaoundé. Bonjour à Navi, à Cotonou. Bonjour à Emmanuel qui nous écoute, lui, à Conakry. Un salut à Roger, à Kisangani, à Mamadou, à Dakar. Et à Prosper qui est étudiant en droit à l'université de Lomé.
Une semaine d'actualité.
Et nous arrivons en Afrique maintenant, Yann Mince, et nous allons nous rendre en Côte d'Ivoire. Pour commencer, la procureure de la Cour pénale internationale a donc décidé de faire appel de l'acquittement prononcé en faveur de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, prononcé le 15 janvier dernier. On en avait évidemment parlé sur notre antenne à La Haye, Stéphanie Mopa.
Dans sa notice d'appel, la procureure dénonce des erreurs procédurales et légales. Elle réclame l'annulation des acquittements et la relance du procès. Fatou Bensouda reproche notamment au juge d'avoir décidé d'acquitter alors que le procès n'était pas arrivé à son terme et de n'avoir motivé leur décision que 6 mois après ces acquittements. Fatou Bensouda estime en outre que les juges auraient fait une évaluation incorrect et déraisonnable des preuves présentées au cours de ce procès, quelques 82 témoignages et 4000 pièces à conviction. La procureure doit désormais remettre son mémoire au juge d'appel d'ici le 15 octobre. Les avocats de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé auront alors jusqu'au 16 décembre pour y répondre, mais les textes de la Cour ne fixent aucun délai à la décision de la Chambre d'appel. En attendant, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé restent soumis aux conditions qui leur avaient été imposées lors de leur libération le 1er février. L'ancien président réside à Bruxelles, mais ne peut quitter la capitale belge sans l'autorisation de la Cour. Son ancien ministre, Charles Blé Goudé, est lui toujours aux Pays-Bas.
Alors, quelles conséquences cet appel pourrait avoir pour Laurent Gbagbo avant l'élection présidentielle de l'année prochaine en Côte d'Ivoire, à Abidjan, Pierre Pinto?
Si Laurent Gbagbo n'a jamais fait acte de candidature pour 2020 et que ses proches assurent qu'il n'est obsédé que par la réconciliation et ne pense pas aux élections, sa possible absence l'an prochain ouvre des horizons à certains, à commencer par Simone Gbagbo, l'ancienne première dame, bat la campagne depuis des semaines et selon certains analystes, se verrait bien porter les couleurs du FPI Gbagbo si l'ancien président décidait de tourner la page de la politique du boycott des élections, mais elle a beaucoup d'adversaires dans l'entourage de son mari. Pascal Affine-Guessant, lui, refuse depuis le début ce boycott. Le président de la frange du FPI reconnu par la justice ivoirienne admet que Gbagbo serait le candidat naturel du FPI l'an prochain s'il était en mesure de se présenter, mais dans le cas contraire, lui ira. Il l'a ouvertement annoncé en mars dernier après la rencontre avortée avec l'ancien président. Si Gbagbo devait rester à Bruxelles, cela ferait aussi les affaires du PDCI et de son patron Henri Conan Bédier, le nouvel allié de Gbagbo dans la CDRP, la plateforme anti-RHDP constituée en vue de 2020. Lui, ou le candidat du parti si ce devait être quelqu'un d'autre, pourrait bénéficier d'un soutien électoral du FPI sans pâtir de l'ombre de Gbagbo. Enfin, Alassane Ouattara et le RHDP voient un adversaire sérieux s'éloigner de la compétition présidentielle.
Suite d'une semaine d'actualité, je salue Jim Amgar qui nous écoute à N'Djamena et qui se demande où est le problème à propos de cette décision de la procureure. Un commentaire, Yann ?
Non, je suis frappé simplement de voir que la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, parle d'évaluation déraisonnable des preuves par les magistrats. C'est une accusation, je trouve, assez grave, parce que des erreurs de procédure, ça peut arriver. Éventuellement, le retard à délivrer le jugement. Mais une évaluation déraisonnable des preuves, c'est une accusation très grave. Ce que j'avais cru comprendre du premier jugement, mais je suis pas expert de la question du tout, c'est que c'était les preuves apportées par la procureure elle-même qui étaient faiblardes. Alors, il serait intéressant de savoir en appel ce que ça va donner. Est-ce qu'effectivement les preuves vont reprendre des couleurs, si je puis dire, ou est-ce que on va en appel, la formation va dire que ce sont les preuves qui sont faiblardes et pas l'évaluation des juges qu'il a été en première instance.
Ce qui est étonnant, c'est que cette décision soit prise fin septembre, alors que la libération s'est produite le 15 janvier.
Oui, mais ça, ce sont les joies et les lenteurs de la justice. Moi, que la justice prenne son temps, je sais que c'est très horripilant quand on est concerné. D'autre côté, je préfère que la justice prenne son temps et pèse le pour, le contre, parce que ce sont des décisions qui ensuite pèsent pour très, 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 très longtemps. Donc, bon, alors, en l'occurrence, effectivement, on aurait pu souhaiter que ça aille plus vite.
En tout cas, le milieu politique, on l'a entendu avec Pierre Pinto à Abidjan, s'interroge aujourd'hui.
Oui, ben, chacun fait ses petits calculs d'apothicaire. Ce que je vois se profiler, si Gbagbo n'est pas là, c'est qu'il va y avoir beaucoup de candidats et que ça va faire un jeu extrêmement ouvert, surtout si effectivement on voit revenir alors Simone Gbagbo, Conan Bédier, et si jamais Ouattara y est aussi, ça fait pas un renouvellement très impressionnant de la classe politique ivoirienne, on va dire ça comme ça.
Direction la Tunisie, maintenant Yann Mas, dans cette édition d'une semaine d'actualité, avec d'abord la mort de l'ancien président du pays, Zine El Abidine Ben Ali, dont la chute début 2011 avait marqué le point de départ des printemps arabes, on s'en souvient. Il est décédé jeudi à Jeddah, en Arabie Saoudite, où il vivait en exil. Pierre Firsion revient sur ses années à la tête du pays.
Lorsqu'il prend le pouvoir en 1987, Zine El Abidine Ben Ali suscite un véritable espoir. Celui qui occupait jusque-là le poste de Premier ministre promet ouverture démocratique et fin de la présidence à vie. Mais l'état de grâce ne dure que 2 ans, car au début des années 90, le changement est radical. Alors que le fondamentalisme musulman gagne du terrain au Maghreb, Ben Ali engage une répression féroce contre le parti Ennahda avant de cibler la gauche et toutes les forces démocratiques. Les atteintes aux droits de l'homme et la surveillance de la population se généralisent alors. La presse est muselée, le multipartisme interdit. Pire, ceux qui veulent faire affaire avec l'État sont dans l'obligation d'adhérer au parti présidentiel, le RCD, le Rassemblement Constitutionnel Démocratique. Ben Ali règne en despote, son portrait s'affiche partout dans le pays. Et si l'économie tourne plutôt bien, l'accaparement des richesses par son clan et par celui de sa seconde épouse, Leïla Trabelsi, va petit à petit le discréditer aux yeux de l'opinion. Réélu à 4 reprises, Ben Ali doit faire face à un premier mouvement de contestation en 2008, les émeutes de Gafsa, mais c'est finalement de la petite ville de Sidi Bouzid que démarre le soulèvement fatal. L'immolation d'un jeune étudiant au chômage, Mohamed Bouazizi, entraîne un vent de révolte dans tout le pays et le contraint à fuir en catastrophe la Tunisie.
Tunisie, toujours celle d'aujourd'hui, après le premier tour de l'élection présidentielle le dimanche dernier, 2 finalistes à l'issue de ce scrutin important pour la nouvelle démocratie tunisienne, un conservateur Bontin et un populiste en prison. Parlons du premier, Kaïs Saïed, qui est arrivé en tête, Marie-Pierre Olfan.
Il est apparu dans les sondages au printemps, mais son score aujourd'hui déroute pourtant les observateurs. D'abord parce que sa campagne a été discrète. Kaïs Saïed n'a pas cherché à organiser de meeting pour être dans la lumière. C'est sur le terrain et le porte-à-porte qu'il a misé avec peu de moyens. Ses positions rétrogrades sur les questions de société n'en faisaient pas le favori, mais son conservatisme n'a pas rebuté ceux qui veulent en finir coûte que coûte avec le système. Il a bénéficié du vent de dégagisme qui souffle sur le pays, explique Mouyedine Cherbib, un observateur de la vie politique, avant d'ajouter « Kaïs Saïed jouit d'une image de monsieur propre et vit modestement, les gens peuvent s'identifier à lui ». Homme de l'ombre, il n'en a pas moins travaillé son image et sa notoriété ces dernières années, et c'est sans doute aussi ce qui explique son succès. Depuis 2011, il commente la vie politique dans les médias, notamment sur la chaîne nationale. Son expertise de juriste l'a placé au-dessus de la mêlée et des querelles entre forces dites modernistes et islamistes. Durant toute la campagne, il a d'ailleurs critiqué ses élites politiques et l'hyper-centralisation du pouvoir, un discours populiste qui a fait mouche, notamment chez les jeunes.
Et le second candidat s'appelle Nabil Karoui, c'est un homme d'affaires et de médias qui est poursuivi pour blanchiment d'argent. Il est en prison et le restera, semble-t-il, encore pour quelques semaines. Yann Mince, parlons d'abord de la Tunisie d'hier avec la mort de Ben Ali et la mort d'une époque, en fait, la fin d'une époque.
Oui, la mort d'une époque, effectivement, c'était, je me souviens, il y a longtemps, effectivement, 87, quand Bourguiba avait été déposé par Ben Ali, on se dit, ah bah ça y est, il va souffler un peu quand même, parce que la fin du règne de Bourguiba, c'est quand même un peu...
Le père fondateur du pays.
Un peu long, et puis c'est toujours pareil, les fins de règne, c'est l'entourage en général qui finit par prendre le contrôle. Là, en l'occurrence, l'entourage a fini par prendre carrément la place. Ce qui me frappe surtout, c'est que ça a été, effectivement, le règne de la corruption, puisque effectivement Ben Ali, sa femme et leurs proches en ont profité, notamment des privatisations qui ont été faites sous l'impulsion du FMI, mais qui ont été dirigées vers ceux qui étaient les plus à même de renvoyer de l'argent vers le pouvoir, oui. Voilà. Mais c'était aussi le règne de la police et des services, et en tout cas pas celui de l'armée. Bourguiba tenait déjà l'armée à distance en tant que policier lui-même ou issu du ministère de l'Intérieur. Ben Ali l'a tenu à distance et ils l'ont payé, si je puis dire, ou il l'a payé. Au moment de 2011, puisqu'en fait c'est quand l'armée a basculé du côté de la rue que Ben Ali est tombé et qu'il a plus eu suffisamment de soutien pour pouvoir rester au pouvoir et qu'il est parti vers l'Arabie Saoudite contre son gré.
Alors il y a aussi peut-être surtout la Tunisie d'aujourd'hui, cette élection présidentielle avec deux candidats étranges.
Bon, il y en a un des deux qui est plus connu que l'autre à l'étranger, c'est Nabil Karoui, parce qu'effectivement, il a déjà fait parler de lui avec ses histoires de télé, de diffusion de films, etc., qui est un homme assez riche, mania de la presse, qui aime bien faire de l'action caritative, qui aime bien parcourir le pays en distribuant un peu, bon, un profil assez classique. Et puis, il y a celui qui est surnommé Robocop, si j'ai bien compris, tellement il est peu expressif quand il passe à la télé, un peu raide, mais qui offre l'avantage pour un certain nombre de gens que cette raideur, c'est l'exact opposé de la corruption qui a malheureusement survécu au régime Ben Ali. Donc un certain nombre d'électeurs, semble-t-il plutôt des jeunes, semble-t-il plutôt des gens diplômés, on va dire, qui ont placé leurs espoirs dans Monsieur Propre. La difficulté de Monsieur Propre, c'est que il a aucun parti derrière lui, que le 6 octobre, on a des législatives, et que le deuxième tour, je crois, de la présidentielle sera le 13 octobre, si j'ai bien compris. En tout cas, le président, quel qu'il soit, aura besoin d'une majorité. Or, les deux grands partis, Nida Tounis, parti de droite, et Ennahda, qui est le parti islamiste, qui ont jusque-là gouverné en tandem la Tunisie, sont partis. En tout cas, leurs candidats ont été renversés. Donc, sur qui vont s'appuyer l'un ou l'autre des deux candidats? El Karoui, lui, vient de Nida Tounis, donc éventuellement, les gens de Nida Tounis peuvent revenir à lui. Ce que je sais pour l'instant, c'est que Kais Saied a reçu le soutien d'Ennahda, donc il a déjà un grand parti de son côté.
Ce qui est frappant, Yann Mince, dans cette nouvelle démocratie tunisienne, c'est déjà le désenchantement de la population.
Oui, le désenchantement. Effectivement, ça fait pas si longtemps que ça que les Tunisiens peuvent voter, ça fait pas si longtemps que ça que... Oui, qu'ils ont pu adopter une constitution, qu'ils ont pu voter pour député, etc. Je pense probablement aussi que on est d'autant plus déçu que le changement n'est pas rapide. Et il y a un certain nombre de changements qu'il n'est pas possible de faire vite. Par exemple, on ne peut pas transformer les structures de l'économie rapidement. Ça aurait sûrement pu être fait plus efficacement que ça a été fait depuis 2011, mais ça, c'est quelque chose. Changer la spécialisation d'une économie, ça ne se fait pas comme ça en un coup de curapeau.
Sept jours en Afrique.
Terminons pour cette semaine notre voyage en Éthiopie avec de l'eau que l'on attend tous, qui est devenue un bien précieux. Afin d'évoquer les discussions houleuses entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte, les pays du Nil, avant la mise en service du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, c'est son nom, une rencontre de ministres des trois pays, Addis Abeba, Vincent Dublange.
Au sortir de cette première rencontre ministérielle depuis plus d'un an, c'est l'Égypte qui dégaine la première. L'agence Reuters publie un document destiné aux diplomates. Cette note critique la rigidité des positions éthiopiennes et mentionne une nouvelle proposition égyptienne. Le Caire réclame que 40 milliards de mètres cubes d'eau minimum soient relâchés par l'Éthiopie durant la première phase du remplissage du grand barrage. Selon un document éthiopien révélé par Addis Standard, l'Égypte demande que le flot naturel du grand fleuve peuvent parviennent jusqu'à elle. La réponse de Gédéon Asfaw, conseiller au ministère éthiopien de l'eau.
Relâcher le flot naturel, mais cela n'existe pas dans le bassin du Nil. Il n'y a pas de flot naturel. Il y a eu des modifications et il y en aura encore. Ils ont notamment dit qu'il ne fallait pas d'obstruction en amont, ce qui limitera, voire empêchera l'Éthiopie d'utiliser de manière équitable le Nil bleu. Mais comme l'a dit le ministre, nous fournissons 86% du courant qui arrive en Égypte et nous dire d'utiliser 0 mètre cube n'est pas un accord équitable.
Les discussions du comité technique indépendant vont reprendre à Khartoum du 30 septembre au 3 octobre. Ensuite, les ministres de l'eau se rencontreront à nouveau du 4 au 5 octobre. L'Éthiopie, elle, prévoit de commencer à remplir le réservoir du barrage à la prochaine saison des pluies, puis de produire ses premiers kilowatts en décembre 2020.
L'eau, enjeu stratégique, décidément, Yann Mince, désormais.
Oui, enjeu stratégique, puis les affaires de barrage sont toujours extrêmement compliquées entre les pays d'amont, les pays d'aval. On avait déjà vu ça dans les années 80-90 avec la Turquie, l'Irak et la Syrie, la Turquie étant en amont et les autres en aval, disant faudrait pas nous bloquer notre approvisionnement. Je note d'une part que les discussions ont repris parce que le Soudan est sorti du plus dur de sa crise politique. On a un gouvernement au Soudan désormais, je ne suis pas absolument convaincu que ce soit facile et que ce soit durable, et je ne voudrais sûrement pas être le premier ministre soudanais. Et la deuxième chose, c'est que on parle souvent des guerres de l'eau, mais on ne les voit pas. Peut-être parce que l'eau est un bien trop vital, trop important.
C'est l'eau précieuse maintenant. Hein. C'est
justement,
vraiment
si on fait une guerre, on risque de plus en avoir. Donc c'est compliqué peut-être pour notamment pour les pays d'aval de faire une guerre contre les pays d'amont. Donc il y a des tensions, il y a des crises, il y a des hurlements, il y a des claquements de portes, mais il n'y a pas vraiment de guerre de l'eau. Il y a des tensions autour de l'eau, mais pas des guerres ouvertes sur ce sujet.
Mais il faut rappeler que cette eau est devenue un peu comme le pétrole, peut-être plus un enjeu stratégique d'évidence.
Le pétrole, on peut s'en passer éventuellement.
Et partout.
Le pétrole, on pourra éventuellement s'en passer. On a des énergies renouvelables, on a le solaire, on a l'air, on a la biomasse, on a tout ce qu'on veut. Il y a une chose dont on peut absolument pas se passer, c'est de l'eau. Donc si on gaspille les ressources, si on les dilapide, effectivement, on aura plus que des soucis, et là on pourrait avoir des guerres du coup.
Et quel que soit le continent, il faut le rappeler, on parle beaucoup en France singulièrement, et sans doute dans d'autres pays d'Europe, de la sécheresse, on s'aperçoit que l'eau est effectivement devenue...
Ça n'a absolument rien de comparable avec ce qui se passe dans des régions comme le Moyen-Orient.
Ouais.
On parlait en début d'émission du Golfe, de l'Arabie Saoudite, là on a des vrais soucis de stress hydrique, comme on dit, et de ce point de vue-là, ce ne sont pas les technologies de dessalement de l'eau de mer qui permettront de pallier le manque, parce que c'est extrêmement coûteux. Je sais que l'Arabie Saoudite a beaucoup d'argent, mais quand même.
Alors, vous signez dans ce dernier numéro d'Alternative Économique, en vente dans les kiosques, un article qui s'intitule « Hong Kong, touchez pas au Grisby ». Ça me rappelle quelque chose, « touchez pas au Grisby ».
Oui, ce sont des références un peu anciennes, des années 60, je crois. Oui, « touchez pas au Grisby », en fait, c'est un article que j'ai écrit sur l'intérêt économique que Hong Kong présente pour la Chine. Pour la Chine, Hong Kong, c'est une espèce de sas avec le vaste monde, sas financier, bancaire, c'est par là que passe l'argent qui rentre et qui sort de Chine à bien des égards. Et c'est parce que Hong Kong a un statut un peu particulier que la Chine peut y faire des transactions sans être tenue par les règles internes à la Chine. C'est aussi à Hong Kong, il faut le savoir, que les dirigeants chinois les plus fortunés placent leurs économies. Donc effectivement, ils n'ont pas intérêt à trop bousculer cette grosse banque.
À lire donc dans Alternatives économiques, dont la couverture s'intitule Les 7 péchés du capitalisme. Merci Yann Mince.
Merci à vous.
On vous retrouvera dans quelques semaines, en novembre par
exemple.
Avec
plaisir. Hein,
une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous allons vous retrouver demain pour un nouveau numéro du magazine Idées, cette fois le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde. Et nous parlerons de la notion de culture générale et de la transmission à l'école notamment. Et nous serons en compagnie d'un spécialiste de ces questions, Denis Kambouchner, demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.